Même si le renvoi de McChrystal a fait les gros titres et renforcé la conviction de ses fidèles au GOP que je n'étais pas à ma place en tant que commandant en chef, ce n'était pas le type d'information qui allait nécessairement influencer une élection. La mi-mandat approchant, les Républicains se sont donc rabattus sur une question de sécurité nationale qui intéressait davantage les électeurs. Il se trouve qu'une bonne majorité des Américains n'étaient pas à l'aise avec le fait que les personnes accusées de terrorisme soient jugées sur le sol américain par des cours pénales ordinaires. En fait, la plupart des gens n'étaient pas spécialement attachés à l'idée qu'elles aient tout simplement le droit à un procès, encore moins contradictoire et équitable. Nous l'avions pressenti très tôt, quand nous avions essayé de tenir mon engagement de fermer le centre de détention de Guantanamo. Dans l'absolu, la plupart des démocrates convenaient que ce n'était pas une bonne idée de retenir indéfiniment des prisonniers étrangers dans cet endroit sans les juger. Cela bafouait nos traditions constitutionnelles et enfreignait la Convention de Genève, compliquait les choses en matière de politique étrangère et décourageait certains alliés très proches de coopérer avec nous sur les affaires de terrorisme et, par un effet pervers, bénéficiait au recrutement d'Al-Qaïda et nous exposait donc au danger. Quelques rares républicains, John McCain notamment, était du même avis. Mais avant de pouvoir fermer cette prison, nous devions trouver ce que nous allions faire des 242 détenus qui étaient enfermés. C'était le plus souvent de simples combattants mal entraînés, ramassés au hasard sur le champ de bataille et représentant une menace quasi nulle pour les États-Unis. Le gouvernement Bush lui-même avait auparavant renvoyé plus de 500 détenus de cette catégorie dans leur pays ou dans un pays tiers. Une minorité des prisonniers de Gitmo était cependant composée d'éléments endurcis, des détenus de grande importance, DGI, comme Khalid Sheikh Mohamed, qui était de son propre aveu un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Ces hommes étaient accusés d'être directement responsables du meurtre d'innocents, et j'estimais qu'il aurait été à la fois dangereux et immoral de les libérer. La solution paraissait limpide. Nous n'avions qu'à renvoyer les derniers détenus ordinaires dans leur pays d'origine, où ils seraient suivis par leur gouvernement et progressivement réinsérés dans la société, et juger les DGI dans les cours pénales américaines. Malheureusement, plus nous entrions dans les détails, plus nous butions sur des obstacles. Par exemple, concernant le rapatriement, de nombreux détenus étaient originaires de pays incapables de les accueillir dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En fait, le plus gros contingent, 99 hommes, venait du Yémen, un état démuni qui souffrait d'un gouvernement dysfonctionnel et de graves conflits tribaux, et qui abritait la branche d'Al-Qaïda la plus active en dehors des régions tribales du Pakistan. La législation internationale nous interdisait de rapatrier les détenus dès lors qu'ils risquaient d'être maltraités, torturés ou tués par leur gouvernement. C'était le cas d'un groupe de Ouïghours, des membres d'une minorité musulmane qui avait fui en Afghanistan à cause de la répression brutale du gouvernement chinois et qui était à présent emprisonné à Gitmo. Ces Ouïghours n'avaient pas grand-chose contre les États-Unis. En revanche, Pékin les classait parmi les terroristes et nous ne doutions pas de l'accueil qui leur serait réservé si nous les renvoyions en Chine. La comparution des DGI devant les tribunaux américains s'annonçait encore plus épineuse. D'une part, l'administration Bush n'avait pas estimé capital de préserver les faisceaux de preuves ou d'enregistrer les circonstances précises dans lesquelles les détenus avaient été capturés, si bien que leur dossier était souvent dans un état déplorable. D'autre part, bon nombre de DGI, dont Khalid Sheikh Mohamed, avaient été torturés durant leurs interrogatoires, ce qui rendait leurs aveux invalides au regard des règles de procédure pénale, de même que tous les éléments de preuve obtenus au moyen de ces interrogatoires. Ce n'était pas un problème pour les responsables du gouvernement Bush, car de leur point de vue, tous les détenus de Gitmo étaient des combattants irréguliers, non protégés par les conventions de Genève, et n'ayant donc pas droit à un procès civil. Un système alternatif de commissions militaires avait été créé, dans lesquelles les normes en matière de preuve et de procédure étaient bien moins strictes que dans le circuit ordinaire. Les observateurs judiciaires s'accordaient presque tous à dire que ce dispositif ne remplissait pas les conditions minimales d'un procès équitable. Et en raison de complications judiciaires incessantes, de retards et d'obstacles procéduraux, ces commissions ne sont parvenues à statuer que sur 3 cas en 2 ans. Pendant ce temps, 1 mois avant mon élection, les avocats représentant 17 Ouïghours emprisonnés à Gitmo avaient réussi à obtenir qu'un juge fédéral réexamine leur dossier. À la suite de quoi, il avait ordonné leur libération et ainsi préparé le terrain à une longue guerre de juridiction. D'autres appels semblables étaient en attente. « C'est même pas un dossier foireux », a constaté Dennis à la fin d'une réunion. « C'est carrément une montagne de merde ». Malgré ces difficultés, nous nous sommes attelés au problème. J'ai ordonné que les commissions militaires ne reçoivent plus aucun nouveau cas, même si, pour faire plaisir au Pentagone, j'ai accepté qu'une équipe interagence étudie la possibilité de les réformer et de les garder en renfort pour les détenus que nous ne pourrions pas faire comparaître devant les tribunaux civils. Nous avons élaboré une procédure permettant d'évaluer quels détenus pouvaient être libérés sans risque et renvoyés soit dans leur propre pays, soit dans un autre qui accepterait de les accueillir. En collaboration avec les avocats du Pentagone et de la CIA, le procureur général Eric Holder et le département de la justice ont épluché les dossiers en pointant les preuves complémentaires à apporter pour faire juger et condamner tous les DGI de Gitmo. Nous avons commencé à chercher une prison, au sein d'une base militaire ou du système carcéral fédéral, capable de recevoir immédiatement les détenus de Gitmo le temps que nous statuions sur leur cas. C'est là que le Congrès a déraillé. Les Républicains ont eu vent de rumeurs affirmant que nous envisagions d'installer les Ouïghours en Virginie. Pour finir, ils ont presque tous été envoyés dans des pays tiers, dont les Bermudes et l'archipel de Palaos. Et se sont rués sur les ondes pour prévenir les électeurs que mon gouvernement prévoyait d'implanter des terroristes dans leur quartier, voire dans la maison d'à côté. Naturellement, cela a crispé les parlementaires démocrates qui ont fini par consentir à un amendement au budget de la défense interdisant que l'argent des contribuables finance le transfert de détenus sur le sol américain dans un autre but que celui de les juger. L'amendement exigeait en outre que Bob Gates soumette au Congrès un plan d'action sérieux avant qu'un nouvel établissement ne soit choisi et Guantanamo fermé. Dick Durbin nous a approchés dans le courant de l'été 2010 pour nous parler d'une prison à moitié vide de l'État de l'Illinois qui pouvait recevoir 90 détenus de Gitmo. Malgré cette perspective de nouveaux emplois dans une zone rurale durement frappée par la crise économique, le Congrès nous a refusé les 350 millions de dollars qui nous auraient permis d'acheter et de rénover la prison. Et certains démocrates se sont même joints aux républicains, prétendant qu'un centre de détention sur notre territoire ferait une cible de choix pour les terroristes. Je trouvais tout cela insensé. Al-Qaïda n'était pas les forces spéciales américaines. S'il décidait de planifier une nouvelle action contre les États-Unis, poser une bombe artisanale dans le métro de New York ou dans un centre commercial à Los Angeles ferait beaucoup plus de dégâts et serait beaucoup plus simple qu'un assaut contre une prison perdue au milieu de nulle part et gardée par des militaires lourdement armés. Du reste, plus d'une centaine de personnes déclarées coupables de terrorisme étaient déjà enfermées dans des prisons fédérales aux quatre coins du pays, sans aucun incident à déplorer. On fait comme si ces types étaient des super méchants dans un James Bond, ai-je dit à Denis exaspéré. N'importe quel détenu d'une prison de haute sécurité les boufferait au petit déjeuner. Cela étant, j'étais conscient que la population avait réellement peur. Une peur née du traumatisme du 11 septembre est constamment attisée par le précédent gouvernement ainsi qu'une grande partie des médias, sans même parler des films et des séries, depuis presque une décennie. Certains anciens membres de l'administration Bush, en particulier l'ex-vice-président Dick Cheney, qui s'était donné pour mission de continuer à alimenter ses peurs, voyait dans ma résolution de repenser le traitement judiciaire des personnes accusées de terrorisme une atteinte à leur héritage. Au fil de plusieurs allocutions et interventions télévisées, Cheney a martelé que l'emploi de techniques comme le waterboarding et la détention à durée indéterminée nous avaient épargné quelque chose de bien plus gros et bien plus grave que les attentats du 11 septembre. Il m'accusait de revenir à une justice d'avant 2001 en négociant avec les terroristes, de ne pas saisir la notion de menace militaire et prétendait que j'exposais ainsi les États-Unis à d'autres attentats. Difficile pourtant de faire coïncider ces déclarations avec les bataillons supplémentaires que nous avions déployés en Afghanistan et les dizaines d'éléments d'Al-Qaïda que visaient nos drones. Du reste, Cheney n'était probablement pas le meilleur messager qui soit, étant donné son impopularité auprès de l'opinion américaine et sa désastreuse absence de discernement vis-à-vis de l'Irak. Néanmoins, beaucoup d'électeurs trouvaient eux aussi que nous avions tort de traiter les terroristes comme des criminels ordinaires. Surtout depuis Noël 2009 et l'attentat avorté d'Oumar Farouk Abdulmutallab, l'Underwear Bomber. Ce jour-là, le département de la justice et le FBI avaient suivi la procédure de bout en bout. Sous le commandement d'Eric Holder et avec le concours du Pentagone et de la CIA, les fédéraux avaient arrêté l'homme dès que l'appareil de Northwest Airlines s'était posé à Détroit et l'avait transporté dans un hôpital pour le faire soigner. La priorité étant de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres menaces immédiates, d'autres bombes dans d'autres avions par exemple, la première équipe du FBI avait interrogé Abdulmutallab sans lui lire préalablement ses droits, en vertu d'une jurisprudence bien établie qui l'autorise dans le cadre de la neutralisation d'une menace active. Pendant cette heure d'interrogatoire, le suspect avait fourni aux agents des renseignements précieux sur ses contacts au sein d'Al-Qaïda, son entraînement au Yémen, l'origine de son engin explosif et les autres attentats en préparation. Après quoi, ses droits lui avaient été lus et il avait pu prendre un avocat. À en croire nos détracteurs, nous l'avions pratiquement remis en liberté. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté d'interroger un terroriste ? Demandait Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, sur un plateau télévisé. Joe Lieberman soutenait qu'Abdulmutallab entrait dans la catégorie des combattants ennemis et, à ce titre, aurait dû être remis aux autorités militaires pour qu'elles l'interrogent et le gardent en détention. Et le républicain Scott Brown, du Massachusetts, s'est servi de ce cas pour mettre au pied du mur son adversaire à l'élection sénatoriale, la démocrate Martha Coakley. L'ironie, comme Eric Holder aimait à le souligner, était que le gouvernement Bush avait procédé de la même manière avec presque toutes les personnes suspectées de terrorisme et interpellées sur le sol des États-Unis, y compris Zacharias Moussaoui, un des planificateurs du 11 septembre. Or, s'il l'avait fait, c'est parce que la Constitution l'exigeait. Quand, à deux reprises, le gouvernement Bush avait déclaré que des suspects arrêtés sur le sol américain étaient des combattants ennemis, sujets à une détention indéterminée dans le temps, les tribunaux fédéraux étaient intervenus pour ordonner leur retour dans le circuit pénal ordinaire. Mieux encore, appliquer la loi donnait de bons résultats. Sous Bush, le département de la justice était parvenu à faire condamner plus de 100 personnes suspectées de terrorisme, avec des peines aussi sévères que celles des quelques jugements rendus par les commissions militaires. Moussaoui, par exemple, purgeait plusieurs condamnations à perpétuité dans une prison fédérale. À cette époque-là, tous les conservateurs, Giuliani compris, applaudissaient ces procès conformes à la loi. « Ce serait moins énervant, m'a dit un jour Eric, si Giuliani et une partie des autres croyaient vraiment ce qu'il raconte. Mais lui, c'est un ancien procureur, il sait ce qu'il fait. C'est juste qu'il n'a honte de rien. » En tant que porte-étendard de notre action visant à aligner nos pratiques antiterroristes sur nos principes constitutionnels, Eric Holder était le premier visé par cette indignation feinte. Il ne se laissait pas déstabiliser, conscient que c'était un des risques du métier, et aussi que ce n'était pas totalement par hasard si, au sein de mon gouvernement, il était la cible favorite du vitriol des Républicains et des élucubrations conspirationnistes de Fox News. « Quand il me hurle dessus, » disait Eric en me tapant dans le dos avec un sourire en coin, « je sais que c'est à vous qu'il pense. » Je comprenais pourquoi mes opposants voyaient en Eric un substitut commode. Grand et placide, il était né à New York, dans le Queens, de parents d'origine barbadienne. « C'est pour ça que vous avez les îles dans le sang, » lui disais-je. Me précédant de 10 ans, il avait comme moi fait ses études à Columbia, où il avait joué dans l'équipe de basket et participé à des sit-ins. Son cursus en droit lui avait fait découvrir les droits civiques, et il avait été stagiaire pendant un été au NAACP Legal Defense Fund, une organisation œuvrant pour la justice raciale. Ensuite, préférant comme moi la fonction publique au secteur privé, il était devenu procureur au sein de la direction de l'intégrité publique du département de la justice, et par la suite juge à la Cour supérieure du district de Columbia. Enfin, il avait été nommé par Bill Clinton procureur fédéral du district, puis procureur général adjoint des États-Unis, deux postes qu'il avait été le premier Afro-Américain à occuper. Eric et moi étions de fervents légalistes, certains, du fait de nos expériences personnelles et de notre connaissance de l'histoire, que c'était par l'argumentation rationnelle et la fidélité aux idéaux et institutions de notre démocratie que nous ferions des États-Unis un pays meilleur. C'est sur ce socle commun, plus que sur notre amitié ou une quelconque concordance d'opinion, que je l'ai choisi comme procureur général. C'est aussi pour cette raison que je mettais tant de soins à protéger son bureau de toute interférence avec la Maison-Blanche dans les dossiers et enquêtes en cours. Aucune loi n'interdisait explicitement ces interférences. Au demeurant, le procureur général et ses assistants relevaient du pouvoir exécutif et obéissaient donc au président. Mais le procureur général est avant tout l'avocat du peuple et non le consigliere du président. L'indépendance de la justice était un impératif démocratique, devenu flagrant lorsque les auditions du Watergate avaient révélé que le procureur général de Richard Nixon, John Mitchell, avait participé activement à couvrir les actes de la Maison-Blanche et lancé des enquêtes criminelles contre les ennemis du président. Le gouvernement Bush avait été accusé d'enfreindre cette norme tacite en 2006 quand il avait démis de leur fonction 9 procureurs fédéraux qui n'appliquaient manifestement pas assez son programme idéologique. Et l'unique soupçon entachant le dossier sinon impeccable d'Eric Holder était la possibilité que, à l'époque où il était procureur général adjoint, il ait cédé à des pressions politiques en avalisant la grâce accordée par Bill Clinton à l'un de ses principaux donateurs au crépuscule de sa présidence. Eric a plus tard avoué regretter cette décision, et c'était précisément le type de situation que j'entendais éviter. Si bien que lorsque nous évoquions ensemble la politique judiciaire, nous veillions à nous tenir à l'écart de tous les sujets susceptibles de compromettre l'indépendance du premier magistrat du pays. Il n'était pourtant pas possible d'ignorer que les décisions du procureur général avaient des ramifications politiques, chose que mes collaborateurs prenaient soin de me rappeler souvent, mais qu'Éric oubliait parfois. C'est pourquoi il a été surpris et vexé quand, un mois après mon entrée en fonction, Axe lui a reproché de ne pas avoir fait valider son discours à l'occasion du Black History Month, qui rend hommage chaque année en février à la contribution des Afro-Américains à l'édification de la nation. Discours dans lequel il qualifiait les États-Unis de « pays de lâches » qui rechignaient à se confronter aux questions raciales. Une observation non dénuée de vérité, mais qui n'était pas ce que nous voulions voir étalé en une de tous les journaux quelques semaines seulement après mon investiture. L'avoinée que nous avons prise à cause de sa décision, légalement censée mais politiquement nocive, de ne pas inculper les cadres bancaires pour leur rôle dans la crise financière, a aussi paru l'étonner. Et c'est peut-être à cause de sa candeur, de sa conviction que la logique et la raison l'emporteraient toujours, qu'Éric n'a pas vu combien le terrain politique avait changé rapidement lorsqu'il a annoncé fin 2009 que Khalid Sheikh Mohamed et quatre autres conspirateurs du 11 septembre seraient finalement traduits en justice devant un tribunal de Manhattan. Sur le papier, nous trouvions tous que c'était une bonne idée. Pourquoi ne pas profiter du procès des détenus les plus célèbres de Guantanamo pour démontrer que le système judiciaire américain était parfaitement apte à traiter les cas de terrorisme avec une équité irréprochable? Et quel meilleur endroit pour rendre la justice qu'une des villes qui avait le plus souffert du terrorisme, dans un tribunal situé à quelques rues de Ground Zero? Après des mois de travail acharné, Éric et son équipe étaient certains que les instigateurs du 11 septembre pourraient être jugés sans qu'il soit besoin de recourir aux informations obtenues lors d'interrogatoires renforcés, notamment parce que nous avions maintenant l'assistance de plusieurs pays qui, auparavant, ne voulaient pas se mêler de tout ce qui se rapportait à Gitmo. Le maire de New York, Michael Bloomberg, approuvait le projet d'Éric, tout comme le sénateur de New York, le démocrate Chuck Schumer. Et puis, aux environs de l'attentat avorté de Noël, l'opinion new-yorkaise a opéré un étourdissant virage à 180 degrés. Un groupement de familles de victimes du 11 septembre a organisé plusieurs manifestations pour protester contre la décision d'Éric. Nous avons découvert par la suite que la meneuse du groupe, la sœur d'un des pilotes tués dans l'attaque du Pentagone, avait créé une association ayant pour but de contrer toute tentative de revenir sur les politiques sécuritaires de l'ère Bush, financée par des donateurs conservateurs et soutenue par des républicains de premier plan, dont Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président. Dans la foulée, le maire Michael Bloomberg, qui aurait subi des pressions de la part de promoteurs inquiets des conséquences du procès sur leur plan de réhabilitation, nous a brusquement retiré son soutien au prétexte que ce procès coûterait trop cher et causerait trop de désordre. Chuck Schumer lui a vivement emboîté le pas, tout comme la présidente de la commission du renseignement au Sénat, Dianne Feinstein. Face à cette coalition d'élus new-yorkais, de familles en colère et de membres influents de notre propre parti, Éric a préféré battre en retraite, déclarant que si son département restait déterminé à faire comparaître les planificateurs des attentats devant des tribunaux civils et non pas militaires, il allait toutefois explorer d'autres endroits que New York. C'était un sérieux recul pour notre projet de fermer Gitmo, et les associations de défense des libertés individuelles, ainsi que les commentateurs progressistes, m'ont reproché de ne pas avoir anticipé cette levée de boucliers, ni opposé une défense plus vigoureuse quand nous nous y sommes heurtés. Ils avaient peut-être raison. Si nous n'avions fait que ça pendant un mois, en laissant de côté la santé, la réforme de la finance, le réchauffement climatique et l'économie, nous aurions peut-être réussi à retourner l'opinion et à forcer les élus à faire marche arrière. C'est un combat qui m'aurait plu. C'est un combat qui aurait mérité d'être mené. Mais sur le moment, c'est un combat sur lequel personne à la Maison-Blanche n'aurait parié. Naturellement, Ram n'était pas mécontent que les projets d'Éric soient contrariés, car c'était lui qui passait ses journées au téléphone avec des parlementaires démocrates paniqués qui nous suppliaient d'arrêter de courir autant de lièvres à la fois. Il faut dire aussi que, après une première année ambitieuse, mon capital politique s'était réduit comme peau de chagrin, et nous emménagions le peu qui restait pour faire voter le plus d'initiatives possibles par le Congrès avant les élections de mi-mandat de 2010 et un possible changement de majorité. D'ailleurs, à la fin de cet été-là, Ram devait piquer une colère contre moi à cause d'une polémique provoquée par le même groupement de familles de victimes, qui menait cette fois campagne pour empêcher la construction d'un centre socio-culturel islamique et d'une mosquée à proximité de Ground Zero, qualifiée d'outrage à la mémoire des morts du World Trade Center. À son crédit, Bloomberg défendait bec et ongle ce projet au nom de la liberté de culte, rejoint en cela par d'autres élus de la ville et même certaines familles de victimes. Mais les commentateurs de droite se sont rapidement emparés de la question, souvent dans des termes ouvertement islamophobes. Les sondages ont montré qu'une majorité d'Américains s'opposaient à l'implantation d'une mosquée à cet endroit, et les stratèges du GOP n'ont pas laissé échapper cette occasion de pourrir la vie des démocrates jusqu'à la mi-mandat. Coïncidence, la controverse a atteint son point culminant la semaine où nous organisions à la Maison-Blanche un dîner d'iftar, de rupture du jeûne, pour marquer le mois de Ramadan en compagnie de plusieurs chefs religieux. Cette soirée devait rester très simple et n'était qu'une manière de témoigner aux musulmans, à l'occasion d'une importante fête religieuse, la même considération qu'aux autres confessions. Mais quand j'ai revu Ram, je lui ai annoncé mon intention d'en profiter pour prendre publiquement la défense du projet de mosquée. Aux dernières nouvelles, on est encore en Amérique, ai-je dit en glissant des dossiers dans ma mallette avant de rejoindre la résidence pour le dîner. Et en Amérique, on n'a pas le droit de pointer du doigt un groupe religieux et de lui interdire de construire un lieu de culte sur un terrain qui lui appartient. « Je comprends, monsieur le Président », a répondu Ram. « Mais vous devez être conscient que si vous dites ça, vous allez signer l'arrêt de mort de nos candidats dans toutes les circonscriptions indécises. » « Je suis absolument certain que vous avez raison », lui ai-je dit en me dirigeant vers la porte. « Mais si on ne peut pas s'exprimer sur un sujet aussi fondamental, alors je ne sais pas à quoi ça sert qu'on soit ici. » Ram a soupiré. « Au train où vont les choses, on risque de ne pas y rester longtemps. »